foi et turbulence.
Bonjour et salutations à tous et à toutes, ici François Gloutenay. Vous êtes à l'écoute de l'émission Foi et Turbulence. Nous sommes le mercredi 25 septembre 2019. Alors, bienvenue à cette table ronde, la deuxième de notre saison, qui, deux fois par mois, accueille des chroniqueurs, des observatrices et des journalistes qui ont le mandat d'analyser l'actualité récente. Nos invités nous aident à comprendre les enjeux derrière les faits et les événements qui nous sont rapportés quotidiennement. Ce qu'on demande à ces spécialistes, c'est de chercher et surtout de trouver un peu de sens et d'humanité au milieu de toutes ces informations qui, parfois, nous submergent. Ce qui intéresse nos analystes, c'est toute l'actualité, qu'elle soit politique, sociale ou religieuse, tant nationale qu'internationale. Alors, cette semaine, à Foi et Turbulence, trois commentatrices et commentateurs viennent discuter et débattre de leur point de vue sur les événements des derniers jours et des dernières semaines. Laissez-moi d'abord vous les présenter. Alors, cette semaine, on trouve Mario Barre, responsable de l'information auprès de l'organisme Aide à l'Église en détresse. Bonjour, Mario.
Bonjour, François.
Participe également à cette table ronde Mireille Dastou, doctorante en bioéthique, éthique et théologie à la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval. Bonjour Mireille.
Bonjour.
On accueille aussi cette semaine Louise-Édith Tétrault, la directrice de la revue Rencontre, publication du Centre culturel chrétien de Montréal. Bonjour Louise-Édith.
Bonjour François.
Alors cette semaine, il sera question des frappes contre l'Arabie saoudite, de la grève générale pour le climat de vendredi prochain, du synode sur l'Amazonie. Mais d'abord, allons-y pour les élections du 21 octobre 2019. Alors, qu'avez-vous pensé donc de cette campagne qui est déjà bien en branle? Il reste 25 jours avant qu'on vote le 21 octobre prochain. Je vous lis ce que José Legault a écrit dans le Journal de Montréal. José Legault est une chroniqueuse qui travaille sur les questions politiques. Alors, qu'est-ce qui l'a frappé, elle, dans la campagne électorale? C'est la spectaculaire panne d'inspiration dont souffrent les deux chefs, Justin Trudeau et Andrew Scheer. Zéro vision, zéro capacité à susciter l'enthousiasme et qui ont pris chez leurs propres troupes, du moins jusqu'à maintenant. Messieurs Trudeau et Scheer n'en ont que pour les poches des familles qu'ils promettent de garnir modestement à coups de mesurettes peu imaginatives. J'aimerais ça d'abord vous entendre. On a parlé de... À chaque fois qu'on a une émission Foi et Turbulence, et jusqu'au 21 octobre, c'est certain qu'on va discuter de la campagne électorale. La semaine dernière, on a discuté de la campagne électorale au moment même où on lançait, où le premier ministre se rendait chez le gouverneur général pour cesser le Parlement et lancer la campagne électorale. Mais là, aujourd'hui, on a déjà deux bonnes semaines de fête. Alors, allez-y, Mario, comment vous avez trouvé ces deux dernières semaines? Est-ce que c'est aussi en panne d'inspiration que le dit Mme José Legault?
En tout cas, je crois que c'est assez juste ce qu'elle écrit. Je ne l'avais pas lu, mais effectivement, je pense que c'est... j'allais vous demander, est-ce qu'on est en campagne électorale, mon cher François?
C'est une bonne question.
On ne sent pas d'enthousiasme.
Mais il y a
quand même beaucoup
de pancartes, là.
Oui, oui, les pancartes, on les voit, mais vous voyez, avec toute la publicité que l'on a maintenant sur les rues, dans les métros, etc., c'est quelque chose d'autre qui se rajoute tout simplement. Et en plus, à Montréal, il y a un quartier, le quartier Plateau-Mont-Royal, qui est en pleine élection. Donc, on avait déjà des pancartes pour des élections. Donc oui, je pense qu'il y a une panne d'inspiration et ce n'est pas à coup de mesurette également que l'on va encourager les gens à aller voter. C'est peut-être davantage à coup de grandes mesures ou de mesures qui touchent directement les gens. Moi, je vous dirais, François, personnellement, le dada, mais vous m'avez déjà entendu là-dessus, c'est le logement. Je crois que c'est un droit inaliénable qui est maintenant menacé par des façons de faire qui sont tout simplement celles de dire, bon, on vend les terrains aux plus offrants, et puis on construit des tours à condos, des condos qu'on nous offre de luxe, alors qu'on n'a pas besoin de luxe pour vivre, un lieu décent avec des choses qui sont de qualité, mais sans qu'on ait à tomber dans le luxe, finalement. Et le Frappru, d'ailleurs, a interpellé tous les partis politiques qui veulent se présenter au fédéral en disant que les besoins en logements sociaux sont criants. Et selon l'organisme, en fait, le logement privé, que la stratégie nationale sur le logement finance, donne des loyers hors de prix. Ça, c'est la stratégie nationale. Et pour l'instant, selon le Frappru, le Front de réaménagement populaire, voilà. Ah, attendez.
Réaménagement urbain.
Merci beaucoup. Petit plan de mémoire. La stratégie donne des logements hors de prix, finalement, et des logements qui, en fait, ça ne suit pas la route, ça ne donne pas ce que ça devrait donner, donc donner du logement à des gens qui en ont vraiment besoin, entre autres le quartier Pointe-Saint-Charles à Montréal. Il y a eu une manifestation il n'y a pas tellement longtemps parce qu'on veut bien sûr y construire un stade de baseball, sauf qu'on dit, écoutez, ces terrains-là devraient revenir à des initiatives de logements sociaux. C'est d'ailleurs ce qui est indiqué dans la politique nationale de logement du gouvernement Trudeau, au début de sa... quand il a été élu, là, c'était indiqué dans sa politique.
Alors, si je comprends bien, non seulement on est en panne d'inspiration, comme le dit José Legault, mais on est en panne d'inspiration sur les questions sociales. C'est un sujet dont on a très peu parlé dans les deux dernières semaines.
Ben, on les voit pas beaucoup et on entend peu parler de ça, les mesurettes. En tout cas, les deux grands partis. Il faudrait que je fasse le tour des autres partis, mais c'est effectivement... Les deux grands partis, finalement, c'est l'un ou l'autre qui risque d'être élu. Alors, on s'attend à ce qu'il y ait de meilleurs résultats dans la manière de nous présenter les choses.
Mais Mireille Dastou, vous, ce que vous avez surtout entendu, c'est un grand nombre de promesses là, qui ont été faites pendant ces deux dernières semaines.
Oui, cette semaine, moi, j'ai entendu plusieurs promesses venant d'à peu près tous les partis, sauf peut-être les conservateurs concernant l'environnement. Ce matin aussi, il y a des promesses qui sont sorties, ou en fait, peut-être pas des promesses ici, mais plus une discussion autour de ce dossier dont on entend parler depuis quelques années autour d'un revenu minimum garanti. Donc, on l'avait vu sur la scène politique provinciale, là, on le voit apparaître sur la scène politique fédérale. Selon moi, ce sont des sujets très pertinents. Malheureusement, oui, je suis d'accord pour dire que prennent peut-être pas assez l'avant-scène de la campagne. Comme si discuter des questions un peu plus de fond comme ça, ce sont quand même des gros dossiers. On arrive rapidement à des limites. Moi, personnellement, ce que je vois autour de moi, c'est comme deux grandes tendances par rapport à la campagne. Je dirais que je vois quand même, et dans ma génération, et même, je dirais même la génération plus jeune que moi, là, mettons, on pourrait dire, de l'âge du secondaire ou du cégep, je vois quand même des gens qui sont mobilisés, qui s'intéressent à la politique, qui vont connaître le nom des candidats, des candidates. Donc, je vois quand même une frange de la population qui est politisée, je dirais. Par contre, je vois aussi, je dirais, le contraire, des gens qui sont très cyniques, qui ont l'impression que, justement, entre les promesses et les réalisations, on voit pas la suite, comme un cynisme, non seulement envers les partis, mais même ça peut parfois aller jusqu'à un cynisme envers la démocratie. Et là, je trouve ça quand même un peu dommage si on se rend jusque-là.
Et donc, ils n'iraient pas voter le 21 octobre,
oui,
par exemple.
Oui, oui, oui. J'ai vu des gens qui prenaient position, là, pour ne pas aller voter. Moi, personnellement, je trouve ça dommage de se rendre jusque-là parce que, pour moi, la démocratie, c'est aussi une volonté politique qui s'organise. Et, bon, selon moi, aller voter, ça n'en fait partie.
Alors, c'est évident que c'est une campagne électorale qui est particulièrement centrée sur les chefs actuellement. Vous, Louise-Édith, vous vous êtes intéressée à Maxime Bernier, qui est le dernier chef en lice là, dans cette campagne électorale-là.
Oui.
Alors, deux mots sur Maxime Bernier, qu'on a quand même entendu ces deux dernières semaines.
Oui, il passe assez bien dans les médias. Alors, c'est la première fois qu'on a un parti clairement populiste et avec une politique libertarienne, carrément. C'est nouveau dans le paysage politique canadien. Carrément d'extrême droite par ses thèmes et... Et c'est les politiques qu'il préconise. Alors, par exemple, il a dit qu'on n'a pas besoin de la loi 101.
Voilà.
Tout le monde sait qu'on parle français au Québec.
Mais c'est de la provocation qu'il fait, Maxime Bernier, quand il lance des choses
oui,
comme ça.
Oui, mais ça lui permet effectivement de passer dans les médias et de faire réagir. Mais c'est un champion de la déréglementation, oui. Tout azimut. En fait, le gouvernement devrait s'occuper d'avoir l'armée, et puis c'est à peu près tout. Pour le reste, on n'a pas besoin de loi. C'est bizarre pour un avocat, quand même, d'être en faveur de l'absence de législation et de règles pour la vie sociale. Ouais. C'est l'individualisme poussé à l'extrême. Mm-hmm. Mais chez les autres partis, comme l'ont souligné mes collègues, il y a aussi cet aspect-là. On n'a plus de projet de société. Le principal projet, c'est d'avoir le maximum d'argent dans nos poches pour pouvoir consommer. Donc, ça, c'est les politiques du Parti conservateur, du Parti libéral, qui s'inspirent même des conservateurs. Trudeau s'est inspiré pour dire on va baisser vos impôts, etc. Mais où sont les projets collectifs? Où sont les même sur le plan de l'aménagement, de la culture, etc.? Il y a pas grand-chose, là. Donc, Bernier, lui, est à l'extrême dans ce sens-là.
Maxime Bernier qui va quand même pouvoir participer au débat télévisé. Oui. Alors, ça vous a étonné, cette décision-là?
Non, par rapport aux critères, je pense que selon les critères qui étaient ceux de... il pouvait participer. Là, il y a tout un débat. Est-ce qu'en donnant une tribune à des gens comme ça, on encourage finalement... le politically correct dirait, ah non, il ne faut jamais leur donner la possibilité de s'exprimer. Mais en même temps, il y a des gens qui pensent comme ça dans la société. S'ils ne participent pas au débat, ils ne sont pas contestés, ils ne sont pas critiqués publiquement, ben, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne chose non plus. Donc, en tout cas, là-dessus, on pourrait discuter longtemps.
Alors, j'imagine qu'on va reparler, en tout cas, des débats lorsque ça va avoir lieu. Et là, on saura si le fait de débattre à 6 personnes, si ce n'est pas trop, là. C'est quand même une première là, pour le système électoral canadien. Encore un mot,
oui. Il promet l'abolition de la taxe sur le carbone. Retrait du Canada de l'accord de Paris. Alors là, il va plus loin que ses adversaires. Et puis, il dit que s'il était premier ministre du Canada, le Québec ne pourrait pas s'opposer à un pipeline sur son territoire. Le gouvernement fédéral a le droit d'imposer un pipeline aux provinces au nom de l'intérêt national.
Maxime Bernier est vraiment celui qui a les phrases les plus chocs, d'une certaine manière, qui cherche la provocation. Il y en a un qui aurait bien aimé ne pas avoir toute cette provocation-là ou de créer la controverse la semaine dernière, c'est le monsieur Justin Trudeau. Alors, je vous rappelle les faits, hein, cette photo qui a fait le tour du monde. Alors, il est Justin Trudeau, il y a une trentaine d'années, il est tout jeune encore, il est professeur dans une université, dans une école à Vancouver, et il est auprès de 4 femmes, il s'est maquillé le visage dans le cadre d'une soirée costumée à thématique mille et une nuits. Alors, il porte ce qu'on appelle un blackface, alors c'est un grimage en noir, un maquillage en noir, qui est une forme théâtrale américaine qui est pratiquée particulièrement dans le vaudeville et où un comédien blanc incarne une caricature stéréotypée de personnes noires pas très futées. Alors, c'est le stéréotype là, de ce qu'on appelle le blackface. J'aurais dû savoir, même à cet âge-là, que je n'aurais pas dû faire ça, mais je l'ai fait et je m'en excuse profondément, a répété pendant une journée entière M. Trudeau. On a eu l'impression que la semaine dernière, là, la campagne électorale s'est arrêtée. Tout était concentré là-dessus, qu'il n'y avait absolument plus rien et que M. Trudeau allait peut-être même démissionner. N'avons-nous pas jusqu'à penser cela pendant quelques instants, tellement il était piteux dans cette situation-là. Allez-y, Mario, Abba.
Sans tomber dans... il faut reconnaître ce que c'est, mais tout d'abord, il faut rappeler les choses, c'est qu'aux États-Unis, le blackface, c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait comme la photo que l'on a montrée. C'est vraiment les lèvres blanche, noire complètement. Je ne suis pas sûr non plus que M. Trudeau, je ne veux pas défendre, là, mais ce que je dis, c'est que je ne suis pas sûr qu'il était dans l'esprit du blackface, parce que l'esprit du blackface, c'était de se moquer des personnes noires. Ici, est-ce qu'il s'est moqué des personnes d'origine? Et là, on voit avec le turban probablement moyen-oriental.
Oui, oui.
Je ne suis pas tout à fait sûr non plus. C'était le thème de sa soirée, là, c'était les mille et une nuits.
Voilà.
Donc, en 2001. Et il faut remettre les choses en contexte aussi. C'est en 2001. Ce n'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il le ferait. Ceci étant dit, j'ai bien peur que des choses comme ça, encore une fois, nous éloignent des vrais enjeux. Le logement, la santé, est-ce qu'il y a des gens ici qui ont de la misère avec le système de santé? Je pense qu'il y en a plusieurs qui pourraient lever la main, qui ont eu des problèmes à un moment ou à un autre. Comment se fait-il aussi qu'au Canada, des gens commencent à s'endetter parce qu'ils ont besoin de médicaments, parce qu'ils ont besoin de soins de santé, alors que le Canada est considéré comme un pays dans le monde où il n'y a pas de problème au niveau du système de santé? Donc ça, c'est des vraies questions. Et quand on s'éloigne de ces questions-là, moi, je délire et je deviens un peu frustré parce que je me dis, il y a des gens sur le terrain qui souffrent pour de vrai.
Mais il y a quand même des gens qui ont souffert de ça et qui se sont sentis profondément blessés par cette image-là. Est-ce que ça a eu un impact sur les votes? Est-ce que les événements de la semaine dernière vont avoir un impact le 21 octobre?
Il ne semble pas, d'après les derniers sondages. Au Québec, en tout cas, certainement pas. Dans le reste du Canada, c'est douteux aussi. Donc, je pense qu'on a exagéré cette histoire-là terriblement. Blackface aux États-Unis et ce que Trudeau a fait, c'est pas la même chose. C'était pas dans les mêmes circonstances. Bon, c'est léger de sa part. C'est surtout un petit peu contradictoire avec l'image qu'il veut donner constamment du champion du multiculturalisme. Et sa conception l'amène à se déguiser comme il l'a fait en Inde ou comme il le faisait lors de cette soirée-là. Mais c'est vraiment complètement... Je ne pense pas que M. Trudeau soit raciste. On peut lui reprocher bien des choses, là. Mais et surtout que le Canada... avec lui au pouvoir, va prendre des politiques qui seraient racistes. C'est vraiment un délire, là. Franchement, un délire. Alors, et pendant ce temps-là, on ne parle pas du programme et on ne parle pas des politiques. Alors, je trouve que c'est vraiment complètement exagéré.
un dernier mot, Mireille, là-dessus. Bref.
Oui, bien, en fait, je suis d'accord avec ce qui a été dit jusqu'ici. Je pense aussi que quand on parle d'irrespect dans la sphère publique, là, on a un épisode qui est sorti, qui a été très, très médiatisé, mais en fait, notamment par rapport aux personnes LGBTQ, le nombre de propos irrespectueux, ça n'arrête plus. Et on n'en fait pas... Par certains candidats aussi. Et ça, on dirait que, bon, ça n'a pas pris la même ampleur là, dans la sphère publique. Et pourtant, on devrait en parler davantage.
Très bien. Ben, écoutez, les élections, c'est le 21 octobre. Il reste 25 jours. C'est certain qu'à la prochaine émission, Foi et Turbulence, à la prochaine table ronde, on va rediscuter de ça. Et la table ronde suivante, ben, ça sera, on discutera des résultats des élections. Alors, vous l'avez entendu parler, c'était le 14 septembre dernier, Aramco, le géant pétrolier de l'Arabie Saoudite, a été frappé par une attaque de drones. Le raid a partiellement détruit deux sites très importants d'Arabie Saoudite, dont la plus grande usine mondiale de transformation du pétrole brut. Au lendemain de l'attaque, on estimait qu'Aramco avait perdu 50 % de sa production, soit environ 5 %, ce qui représente 5 % de la production mondiale du pétrole. On parle de 18 drones et 7 missiles qui auraient été utilisés lors de cette attaque. On a retenu notre souffle pendant quelques instants cette journée-là, lorsque c'est arrivé. Surtout que ce sont les rebelles Houthis, une organisation armée du Yémen, qui ont revendiqué ces attaques. Mais les États-Unis et l'Arabie Saoudite ont rapidement dit que ce n'était pas eux les responsables, mais c'était plutôt l'Iran. L'Iran a bien sûr nié ces allégations-là. On a eu l'impression, Mario Barre, qu'on a assisté cette journée-là et pendant les jours suivants à comme un réalignement de toutes les factions à l'intérieur du Moyen-Orient et de cette région-là du monde.
Oui, c'est sûr. Et c'est quelque chose qui a vraiment affaibli l'Arabie saoudite, ça c'est clair, selon plusieurs spécialistes, entre autres dans une entrevue réalisée par Olivier Bonnel au Vatican. Il y a un ingénieur qui s'est prononcé, donc un ingénieur français qui attendrait plus que je retrouve le nom, je ne retrouve plus le nom. De toute façon, ce qu'il disait, c'est que ça a vraiment affaibli l'Arabie saoudite. Dans tout ça, moi, ce qui me frappe, c'est le cas de le dire, c'est le fait que on est en pleine semaine où on se conscientise de plus en plus au changement climatique. Et là, il y a cette frappe sur une installation pétrolière dans un pays qui est accusé d'avoir des pratiques concernant les droits de la personne plus que douteuses, vraiment totalement inacceptables. Est-ce que ça pourrait enfin peut-être réveiller certains pans de nos économistes ou de nos décideurs économiques qui pourraient peut-être dire, ben finalement, il faut vraiment qu'on change nos manières. Parce que, vous l'avez dit, c'est 5 à 6 % de la production mondiale. Et quand on a entendu la nouvelle, il y a plusieurs analystes qui disaient, ça y est, le prix du pétrole va bondir. Ce qui n'est pas encore le cas, peut-être que ça viendra, mais et probablement dans 6 mois, c'est, si je comprends bien les pratiques économiques.
Ça a été momentané à la pompe, là. Voilà. Lorsque vous avez fait le plein d'essence, ça a été assez momentané. Là.
Mais après, on est redescendu au même niveau qu'on était il y a 5-6 mois. Là. Donc, pour moi, la question est beaucoup plus large. C'est de savoir comment est-ce qu'également les pays occidentaux du Nord vont finalement, j'allais dire, arrêter ou prendre conscience de toute la responsabilité qu'ils ont au Moyen-Orient. Et parce que ce qu'on observe au Moyen-Orient est également induit par des années et des années et des années de pratiques diplomatiques qui laissent aller les choses. L'Arabie Saoudite étant un pays, donc je le rappelle, qui a des pratiques, des droits de la personne qui sont inacceptables à plusieurs niveaux, dont la liberté religieuse. La liberté religieuse, il n'y en a pas en Arabie Saoudite.
Mais qui sont quand même des alliés des États-Unis.
Exactement.
Et c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, Louise Edith. On a vu un réalignement de tout le monde de ce côté-là. Vous avez un groupe de rebelles, petit groupe qui décide d'attaquer l'Arabie Saoudite, et l'Arabie Saoudite et ses alliés qui disent non, c'est pas eux qui l'ont fait, mais c'est plutôt une autre puissance régionale. Est-ce qu'on n'avait pas là justement tout ce qu'il fallait pour créer une petite guerre, là? Ou enfin, est-ce qu'on n'a pas eu peur d'en arriver là?
Mais le président des États-Unis menace l'Iran depuis très longtemps. Oui. D'abord, il fait plus que menacer. Il sanctionne, il est sorti de l'accord qui est sur le nucléaire, par exemple. Et il y a quelques mois à peine, on parlait d'une intervention militaire contre l'Iran. Là, ça revient sur le tapis avec cette attaque-là.
On peut juste saluer sa retenue d'une certaine manière.
Oui,
non?
Jusqu'ici, là. D'ailleurs, là, j'ai lu ce matin qu'il y a d'intenses conversations diplomatiques à New York pour l'Assemblée générale. Parce que là, le président Macron, Mme Merkel de l'Allemagne et le premier ministre du Japon jouent les intermédiaires entre Trump d'un côté et le président de l'Iran de l'autre.
Ouais.
Donc là, on discute très, très fort actuellement. Mais c'est une conséquence de la guerre au Yémen.
Ben oui, bien sûr. Et ça, on n'en parle
où
pas.
Où l'Arabie saoudite est intervenue très clairement. Et c'est d'après l'ONU, c'est le conflit qui a déjà fait des dizaines de milliers de morts, en particulier des civils. Et c'est la pire crise humanitaire au monde actuellement. On ne sait pas seulement que l'Arabie saoudite porte atteinte aux droits de l'homme de ses propres citoyens dans son pays, mais non, c'est aussi la crise...
Les droits de la personne dans un autre pays.
Là, les droits de la personne sont complètement bafoués au Yémen.
Ouais. C'est probablement un des angles morts de la politique internationale. Hein. Ça fait 5 ans qu'il y a cette guerre-là que mène l'Arabie saoudite contre le Yémen. Et là, on entend surtout parler de cette attaque-là qui serait venue du Yémen contre l'Arabie saoudite.
C'est possible, mais ce qu'on dit aussi, c'est que l'Iran arme ces gens-là, et c'est par de l'armement qu'ils ont obtenu de l'Iran, ou même qui viendrait directement de l'Iran, que ces attaques-là ont pu être menées.
Mm. Alors, un mot encore, Mireille?
Oui, mais beaucoup de tensions sur toile de fond, toujours de ces enjeux de pétrole.
Bien sûr, oui.
Hier, j'entendais à la radio commenter encore d'un point de vue de la finance à l'international à quel point ce sont les gros joueurs, je dirais. Là, on en parlait hier plus dans une optique environnementale, mais on sent que quand il y a autant d'enjeux financiers, qu'on est vraiment comme, on dirait...
dans des dynamiques qui sont assez loin de notre quotidien là, en tant que Québécois, Canadien, occidental.
Oui, on est loin.
Alors, moi, évidemment, je prône toujours la paix dans des telles circonstances, dans de tels événements, mais on dirait qu'il y a tellement de tensions depuis des années accumulées qu'on ne sait même plus comment la paix pourrait être mise en place. Ça serait certainement des très longs processus.
Alors, oui, allez-y, Mario.
Je reviens en fait à ce que je disais tantôt. Il y a tout un pan de notre économie occidentale au nord, États-Unis, Canada, Europe du Nord, qui est concentré au Moyen-Orient. Et nos liens économiques sont très importants avec l'Arabie saoudite à cause du pétrole. Et au Moyen-Orient également, dans tout le Moyen-Orient. Et la déstabilisation du Moyen-Orient à laquelle on assiste depuis le début des années 2000, elle vient également de là. Donc, il y a tout ça sur lequel il faut analyser. Il y a également toute l'histoire de la colonisation et des protectorats, autant au 19e siècle et 20e siècle. Donc, pour moi, il y a beaucoup... il y aurait toute une analyse historique également à faire et de revoir également au niveau international comment on fait affaire avec des pays, encore une fois, qui ont des pratiques des droits de la personne qui sont inacceptables. Et ça, pour moi, c'est important de le redire parce que on a tellement, au niveau économique, l'argent est devenu tellement aveugle, mais en même temps, il y a des victimes, là. Il y a des victimes au Yémen, il y a des victimes partout, il y a des victimes en Syrie de tout ça aussi, là.
Un mot, Louise-Édith?
Bon, rappeler que le Canada est un grand vendeur d'armes à l'Arabie saoudite. Il y a eu plusieurs tentatives pour...
Le contrat sur les blindés.
C'est ça, les contrats sur les blindés.
Alors qu'on se présente comme des champions de la paix dans le monde.
En fait, notre dépendance au pétrole amène tous les pays, finalement, à tolérer un pays comme non seulement à le tolérer, à le fréquenter, à le faire la cour. Quand on change le roi d'Arabie saoudite arrive un nouveau roi, tout le monde se précipite pour faire allégeance dans les jours qui suivent. C'est incroyable. Normalement, un pays comme ça devrait être au banc de la communauté internationale pour ça. Ouais. C'est pratique.
C'est le pétrole qu'il produit.
Bon.
C'est
tout. Mais là, au contraire, je veux dire, même à l'époque Trudeau, il allait là pour la chasse aux faucons avec ses enfants. Tu sais, c'est des gens tout à fait fréquentables. Alors, c'est une conséquence de notre dépendance au pétrole. Parce que s'il n'y avait pas cette dépendance au pétrole, l'Arabie saoudite serait remis à sa place depuis longtemps.
Alors, à surveiller donc les prochains jours, en tout cas les prochaines semaines, c'est pour parler avec l'Arabie saoudite sur la question des frappes récentes là, de ses installations pétrolières. Je vous rappelle effectivement que ça fait 5 ans que l'Arabie saoudite et une coalition d'autres pays attaquent le Yémen, là où habitent maintenant les Houthis. 10 millions de personnes risquent de mourir de faim au Yémen, selon les estimations de l'ONU, qui dit que ce conflit a plongé ce pays pauvre dans la pire crise humanitaire au monde. Alors, nous sommes toujours à l'écoute de Foi et Turbulence. Je vous rappelle les gens qui participent à cette table ronde sur l'actualité. Il y a Mario Barre de l'Aide à l'Église en détresse, Mireille Dastou, doctorante de la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval, et Louise-Édith Tétrault du Centre culturel chrétien de Montréal. Alors, notre troisième sujet aujourd'hui, on s'en vient à Montréal, mais on s'en va aussi dans le monde entier. On va parler de cette grève générale pour le climat. Alors, plusieurs organisations sociales, étudiantes, écologistes ont lancé, il y a quelques jours, un appel en faveur d'une grève générale pour la planète, au Québec, entre autres, et cet événement-là se tiendra le 27 septembre, donc 2 jours, vendredi. On lance aujourd'hui un appel à la grève sociale pour que le 27 septembre, le Québec entier s'arrête pour réfléchir à l'avenir et à la catastrophe qui nous guette, a indiqué le porte-parole du collectif La planète s'invite au Parlement, Il s'appelle François Geoffroy et c'était le mardi 11 septembre que cette invitation-là a été lancée. Des centaines d'organisations communautaires, des associations étudiantes et des syndicats ont déjà adopté un mandat de grève. On peut s'attendre à ce que des milliers de personnes se rendent à Montréal sur le Mont-Royal dès vendredi midi et participent à une longue marche. Ce sera partout aussi au Québec, ce sera partout au Canada et partout dans le monde entier. C'est un événement drôlement intéressant et en même temps qui arrive en pleine campagne électorale, Mario Barre.
Oui, c'est vrai. Hein? Et on vient juste de parler de dépendance au pétrole, alors.
Oui.
Je trouve ça intéressant. Il y a les évêques catholiques du Québec qui étaient réunis la semaine dernière en assemblée plénière qui ont lancé un appel. Prenons soin de notre maison commune. Ça, c'est le titre de leur déclaration. Oui. Il dit ceci: face au désenchantement, nous voulons souligner l'engagement remarquable de vastes ensembles de la société civile et plus particulièrement des jeunes. Plusieurs d'entre eux militent avec détermination pour que des transformations concrètes soient orchestrées sans plus tarder afin de préserver les écosystèmes confiés à nos soins qui nous permettent de vivre sur cette planète dont nous sommes co-responsables. Nous redisons également notre respect pour celles et ceux qui s'engagent dans la vie publique au sein de nos institutions politiques, souvent au prix de sacrifices importants. C'est le Conseil des Églises et Sociétés qui a fait cette déclaration. Voilà. Et je trouve ça intéressant que le pape se soit adressé également aux participants de New York sur la conférence sur le climat. Là. Lui, il ne va pas avec le dos de la cuillère. Il dit que les changements climatiques, ben, c'est l'un des phénomènes les plus graves et les plus préoccupants de notre temps, sans doute, mais... Et c'est vraiment un des leaders. Moi, je vous dirais, ça m'impressionne dans la mesure où c'est un des leaders mondiaux présentement qui est le plus présent au niveau de cette lutte au changement climatique. C'est quelqu'un qui lance des appels constamment. Si vous allez sur le site du Vatican ou si vous allez sur les sites, vous tapez Pape François et changement climatique, vous allez avoir des déclarations parce que, et il essaie également à sa manière donc de faire des changements pratiques au Vatican, plus de plastique
oui,
au Vatican,
absolute, entre oui, autres.
Donc,
oui.
Plus de bouteilles de plastique sont interdites de vente sur le territoire du Vatican, qui est petit, mais c'est tout de même un geste symbolique qui est très fort. Et plus de plastique non plus. Et il y a déjà également des grands panneaux solaires qui ont été installés sur la salle des audiences, là, la salle Paul VI, donc pour alimenter en électricité une partie du Vatican. Donc, c'est des gestes qui sont quand même importants.
Alors, on peut s'attendre déjà à ce que vendredi prochain, en tout cas, une bonne partie du Québec soit paralysée, puisque bien des gens ont décidé de ne pas aller travailler. Des gens aussi ont demandé des mandats de grève. Certains, ça a été refusé. Louise-Édith, vous ne serez pas à Montréal vendredi prochain.
Malheureusement,
vous quittez,
je ne pourrai pas participer.
Mais vous irez probablement dans un pays où il y aura aussi des manifestations.
Oui, c'est possible.
Mais ça ne sera pas seulement une manifestation de jeunes. C'est bien ce qu'on observe, en tout cas.
En effet, dans plusieurs pays, déjà le 20 septembre, il y a eu quelque chose d'important dans le monde. Et en Allemagne, c'est le pays qui s'est le plus mobilisé à ce moment-là. Il y avait 1,4 million de marcheurs, ce qui est énorme. 100 000 personnes à Londres et en Australie, 400 000 personnes. Donc, on voit, et puis évidemment, il y a eu toutes sortes, il y a eu 5 800 actions dans 163 pays, 73 syndicats, 820 associations de la société civile et 3 000 entreprises. Donc, oui, il y a une mobilisation. Mais on verra avec le résultat des élections dans quelle mesure ça se traduit par l'appui à des programmes de changement réel. C'est bien beau d'aller manifester, mais après ça, comment est-ce qu'on vote? Et même si on vote, parce que si on ne vote pas, on sait que les jeunes, par exemple, sont plus forts pour aller manifester que pour aller voter. Alors, ça passe par la politique, ça passe par les mesures ou les lois que vont... imposer ou non les gouvernements, les choix que vont faire les gouvernements. Alors, on en reparlera le lendemain des élections, voir dans quelle mesure c'est pas une façon de se donner bonne conscience, puis après ça, on élit un gouvernement qui va exactement dans le sens contraire. Ouais. C'est tout à fait possible.
Mireille, c'est quand même pas la première fois qu'on va manifester pour le climat. Il y a depuis plusieurs semaines déjà, plusieurs mois, il y a eu plein d'initiatives initiatives comme ça, citoyennes, où des gens ont signé des pétitions, se sont engagés en faveur du climat, ont demandé au gouvernement canadien, entre autres, de respecter ses engagements sur la question des changements climatiques. C'est pour vous, c'est heureux quand même, les événements de vendredi prochain.
Oui, tout à fait. Je crois que c'est une mobilisation importante. Je pense aussi qu'on a besoin, dans toute la complexité du paysage politico-social, de causes comme ça qui nous rassemblent, puis dont on va pouvoir se souvenir qu'en 2019, il y avait eu cette grande marche pour le climat, ou en tout cas, il va y avoir cette grande marche pour le climat. Puis ça fait aussi partie de notre histoire personnelle et de notre histoire collective.
J'étais là vendredi.
Oui, c'est ça, ces mobilisations-là. Moi, je suis impressionnée de voir que dans les universités, il y a vraiment cette sensibilisation qui se fait auprès des universitaires. Bon, évidemment, le climat et en fait tous les enjeux environnementaux, on est dans des enjeux qui sont toujours à long terme. Il y a certaines problématiques qui ont été identifiés il y a plus de 30 ans, 40 ans, et on n'a pas toujours les solutions, ou en tout cas, il y a certaines solutions qui sont mises en place, mais on n'a pas nécessairement toutes les solutions. Alors, moi, je pense qu'il faut être réaliste aussi et attendre des gouvernements qu'il y ait des orientations qui soient prises, mais c'est complètement utopique de penser qu'un gouvernement pourra régler dans un mandat de 4 ans les enjeux environnementaux qu'on n'a pas réglé depuis 30 ans, par exemple. Alors, voilà un peu ma perspective.
Alors, on a beaucoup parlé, en tout cas dans les derniers jours, d'une jeune femme qui s'appelle Greta Thunberg. Elle sera à Montréal vendredi pour participer à la manifestation. Alors, cette semaine, elle était à l'ouverture du sommet de l'Organisation des Nations Unies sur l'action climatique. Je vous lis là quelques mots de ce qu'elle a dit. « Je ne devrais pas être ici, je devrais être à l'école, de l'autre côté de l'océan. Comment osez-vous? Vous avez volé mes rêves et mon enfance avec vos paroles creuses », a-t-elle lancé aux politiciens et aux politiciennes qui étaient réunis à New York. « Je fais pourtant partie de ceux qui ont de la chance. Les gens souffrent. Ils meurent. Des écosystèmes entiers s'effondrent. Nous sommes au début d'une extinction de masse et tout ce que vous parlez, c'est de l'argent et des contes de fées de croissance économique éternelle. Comment osez-vous? » C'est quand même rafraîchissant d'avoir entendu cette jeune femme-là de 16 ans s'adresser ainsi au Parlement mondial, d'une certaine manière, là, sur la question climatique. Ça vous a réjoui, Mireille Dastou, c'est évident.
Oui, je suis contente de la voir dans une certaine, on pourrait dire, authenticité. Il y a de l'émotion dans ce qu'elle dit. Il y a quelque chose qui cherche à ébranler un système. Et j'ai vu des très belles analyses là, où on présente Greta Thunberg comme un symbole d'une conquérante, un peu une guerrière. Alors, je crois que ça peut quand même nous inspirer. Voilà. Par contre, malheureusement, il y a le revers. J'ai vu surtout du côté des États-Unis des formes d'attaque envers le symbole aussi. Alors, malheureusement, elle ne fait pas l'unanimité, mais je crois que sa parole est importante.
Oui, c'est clair. On a entendu Maxime Bernier aussi dire des méchancetés. Oui.
Il a dit qu'elle était instable, oui, autiste, obsessive-compulsive, léthargique et elle souffre de troubles alimentaires. Et non seulement elle doit être dénoncée, mais attaquée. Alors évidemment, il s'est excusé un peu par la suite parce qu'il y a eu une réaction assez négative à des propos aussi extrêmes. Et surtout, comment peut-elle être léthargique alors qu'elle fait campagne partout dans le monde et qu'elle a traversé l'Atlantique sur un voilier?
Mais
vous l'avez dit plus tôt, M. Bernier est le champion des phrases choc et de la provocation.
Pour revenir, il y a beaucoup d'opposition aussi qui s'exprime par rapport à ce dossier-là de l'environnement. J'écoutais, par hasard, j'étais dans un taxi, puis j'écoute, il y avait la radio, une émission d'affaires publiques très populaire, très écoutée.
Oui.
Et là, il était question des professeurs qui veulent s'absenter pour participer à la marche et tout ça. Et c'était très hostile. Les deux animateurs, plus les gens qui téléphonaient, etc., là, ou qui envoyaient des messages, c'était « Ah non, non, je veux dire, ils ont un contrat de travail, ils ont juste à travailler, ils n'ont pas à s'absenter. Si on commence à tolérer que les profs s'absentent pour toutes les bonnes causes qui existent, à ce moment-là, il n'y a plus... » Bon, ce discours-là, il existe aussi, là. Donc, il ne faut pas se faire d'illusions que tout le monde est 100% préoccupé par l'environnement et puis qu'il est prêt à faire de gros efforts pour changer des choses dans sa vie, là, c'est loin d'être acquis.
Ce qui est troublant, François, en fait, c'est toute cette espèce d'opposition entre économie et environnement, alors qu'il y a des opportunités, qu'il y aurait des opportunités de transformer l'économie et que personne parmi les leaders ne prend cette opportunité vraiment. Ils ont tous, on a l'impression qu'ils ont tous peur, qu'ils sont très frileux de le faire ou qu'ils sont très frileux de proposer des choses. Ils ne sont pas très frileux d'aller en guerre et ça, on le voit de plus en plus. Il y a beaucoup de discours de vote en guerre un peu partout dans le monde. Mais par contre, quand vient le temps de changer, de donner de l'élan à des transformations économiques qui pourraient avoir un impact sur notre vie quotidienne, mais également sur la vie de la planète en général et sur la vie de l'environnement, ah ben là, on est un peu plus frileux. Et moi, je reviens à Laudato si, qui est cette fameuse encyclique du pape François, qui est encore...
En fait, l'environnement.
C'est son testament, je vous dirais, au pape François. C'est pas compliqué. Mais il dit ceci, cette sœur... Alors, il parle de la planète.
Oui.
Cette sœur crie en raison des dégâts que nous lui causons par l'utilisation irresponsable et par l'abus des biens que Dieu a déposés en elle. Nous avons grandi en pensant que nous étions ses propriétaires et ses dominateurs autorisés à l'exploiter. La violence qu'il y a dans le cœur humain blessé par le péché se manifeste aussi à travers les symptômes de maladies que nous observons dans le sol, dans l'eau, dans l'air et dans les êtres vivants. C'est pourquoi parmi les pauvres, les plus abandonnés et maltraités, se trouve notre terre opprimée et dévastée, qui gémit en travail d'enfantement. Nous oublions que nous-mêmes, nous sommes poussière. Notre propre corps est constitué d'éléments de la planète. Son air nous donne le souffle et son eau nous vivifie comme elle nous restaure. J'aurais le goût de dire aux gens qui ne jurent que par l'économie et que par l'argent, est-ce que vous allez être capable de manger de l'argent? Et oui. Ça, il y a déjà des gens qui l'ont dit, hein? C'est pas moi qui l'invente, mais l'idée est très bonne. Je veux dire, si on n'a plus la capacité de faire de l'agriculture, ben est-ce qu'on va être capable de se nourrir avec du papier et de l'argent? Je sais pas, là.
Alors, vous nous invitez en tout cas à relire Laudato si, cette encyclique du pape François. Le temps file actuellement. Allez-y, un dernier mot, Mireille.
Oui, je voulais juste un peu contrebalancer le point de vue de Mario. Moi, je pense qu'il y a des investissements en technologie verte qui se font. C'est juste que les changements sont très lents. Moi, j'ai vu beaucoup d'investissements, entre autres dans les énergies solaires. J'en ai vu même en Asie. Alors...
Est-ce que c'est pas assez vite, il me semble?
C'est ça. Alors, oui, c'est sûr. On a la lenteur et tout ça, mais il faut garder le regard aussi vers les initiatives, comme tu le disais tantôt, par exemple, en donnant les exemples au Vatican, où il y a quand même des changements qui se mettent en place.
Oui. Alors, je vous rappelle que Greta Thunberg, là, qui a invité les gens, les politiciens, les politiciennes, à cesser d'avoir des paroles creuses et à cesser de rêver au compte de fait de croissance économique éternelle sera à Montréal vendredi prochain. C'est le collectif La Planète s'invite au Parlement qui l'a invité à marcher dans les rues de Montréal vendredi. Alors, notre dernier sujet pour cette semaine à Foi et Turbulence, on va parler là du synode sur l'Amazonie. Alors, c'est en octobre 2017 que le pape François a annoncé la tenue d'un synode sur l'Amazonie. C'est ce synode qui va se tenir à Rome du 6 au 27 octobre. Le thème de cette rencontre, et je vous rappelle qu'un synode, ben, c'est une réunion des évêques sur un sujet en particulier, et ça va réunir tous les évêques de cette région du monde, de l'Amazonie, donc les sept pays, là, qui, c'est sept pays là, qui font partie de l'Amazonie. Le thème, c'est « Amazonie, de nouveaux chemins pour l'Église et pour une écologie intégrale ». Alors, c'est on a voulu, dès le départ, lorsqu'on a lancé l'idée du synode, faire en sorte que ces nouveaux chemins d'évangélisation doivent être pensés pour et avec le peuple de Dieu qui habite dans cette région. En lançant une idée semblable, le pape François avait une idée en tête, c'était de consulter les gens dans ces pays-là. Et croyez-le ou non, pas loin de 80 000 personnes ont rempli les questionnaires, ont participé à des cercles de discussion, souvent des gens analphabètes, des gens qui venaient, je pense que c'est la moitié des populations autochtones, là, des différents types de populations autochtones qui ont participé à cette réflexion-là. Alors, c'était quand même assez important. Le document préparatoire disait « Il faut être à l'écoute des peuples indigènes et de toutes les communautés qui vivent en Amazonie en tant que les premiers interlocuteurs de ce synode. Ça revêt aussi une importance vitale pour l'Église universelle. Pour cela, nous avons besoin d'une plus grande proximité et c'est ce qu'on voulait savoir. On voulait savoir comment imaginons-nous un avenir serein et le bien-vivre des générations futures? Comment pouvons-nous collaborer à l'édification d'un monde qui doit rompre avec les structures qui ôtent la vie et avec les mentalités de colonisation pour construire des réseaux de solidarité et d'interculturalité? Et surtout, quelle est la mission particulière de l'Église face à cette réalité? » C'est quand même un événement important, majeur, en tout cas dans l'Église, d'avoir un synode sur une petite région du monde, mais qui est si vitale pour l'ensemble de l'humanité. Allez-y, Mario.
Ben oui, et c'est intéressant parce que non seulement elle rejoint bien sûr la maison commune, et donc elle rejoint dans le fond tous les êtres humains jusqu'à un certain point, mais on y parle bien de l'Église. Hein? On y parle bien, un synode, c'est d'abord pour l'Église, et c'est d'abord l'Église qui se questionne sur elle-même, sur ses pratiques, sur ses manières d'aller encore plus en avant. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'en entrevue avec l'AED, Aide à l'Église en détresse, Monseigneur Sebastiano Bandeira, qui est l'évêque de Coroatá dans l'état de Maranhão, dans le nord-est du Brésil.
Donc, il fait partie de l'Amazonie.
Il fait partie de l'Amazonie, disait ceci. Nous savons que l'Amazonie a besoin d'une Église avec un visage qui lui est propre. Et comme le souligne le document préparatoire du synode, nous devons passer d'une Église qui visite à une Église qui demeure. Et c'est un problème majeur en Amazonie, c'est que plusieurs communautés chrétiennes là-bas ne voient un prêtre ou quelqu'un de l'Église qu'environ peut-être tous les 6 mois, un an, des fois un an et demi. Bref, la présence de l'Église catholique dans certains coins de l'Amazonie, alors que ces gens-là sont des chrétiens, là, ils ont été baptisés, ils l'ont voulu. Là, il y a 500 ans quand c'était forcé. Ce sont des gens qui se sont convertis avec leur propre liberté de conscience. Mais ces gens-là n'ont pas accès à des gens qui les aident à cheminer spirituellement. Et ça, c'est un réel problème en Amazonie pour l'Église catholique.
Alors, vous avez lu, vous, le document préparatoire, Louise-Édith. Alors, juste avant le synode, on a publié donc un document d'une 60aine de pages. On appelle ça l'Instrumentum Laboris. Alors, quand c'est pas en latin, ça veut dire le document de travail, tout simplement, sur lesquels vont pencher les pères du synode et qui vont discuter. En fait, c'est une série de propositions, de discussions et tout ça. Vous en avez retenu quoi, Louise-Édith?
C'est une rupture avec un esprit colonial et un esprit « nous avons la vérité, on va vous le montrer, comment faire, quoi faire, etc. » C'est un peu la tradition dans l'Église, c'est souvent ça. Oui. Là, on écoute, on est parti des préoccupations des gens, de ce qu'ils vivent, de leurs problèmes, de leurs difficultés et évidemment de tout l'enjeu environnemental. Donc, c'est déjà, en soi, c'est un document un peu révolutionnaire. Comme on n'en a pas eu dans l'Église catholique jusqu'ici. Et c'est certainement à mettre au crédit du pape François d'avoir organisé un tel synode et d'avoir accepté un document de ce genre-là qui va servir de base de travail pour les discussions. Donc, moi, je suis très... Bon, quand on lit le document attentivement, on peut être surpris un peu. Il y a un petit côté utopique, un petit côté... c'est tellement beau, les valeurs sont tellement extraordinaires, mais dans la réalité du Brésil avec qui est au pouvoir actuellement, c'est aussi une région où il y a beaucoup de violence. Oui. Les grands propriétaires, ceux qui s'occupent groupes, les promoteurs, etc., n'ont jamais hésité. Ils ont des milices privées. On tue beaucoup de gens qui contestent ou qui protestent ou qui sont simplement qui veulent faire respecter leurs droits. Donc, ça, c'est un petit peu passé sous silence dans le document. On a l'impression que... Et peut-être qu'on va mal se réveiller parce que le gouvernement actuel, en tout cas, est très... Et il a aussi des catholiques en Brésil qui sont très, très conservateurs, qui veulent même organiser un contre-synode à Rome.
Oui.
et qui... Alors, je pense que le contexte dans lequel ça se produit actuellement... en tout cas, il n'y a pas de sympathie du côté gouvernemental.
Donc, il a encore répété hier que l'Amazonie ne faisait pas partie du patrimoine de l'humanité.
Non.
Ça appartient au Brésil.
C'est ça. Il faut rappeler que le Brésil a la plus grande partie de l'Amazonie, mais qu'il y a beaucoup d'autres pays, des pays voisins, qui sont aussi concernés et qui auront leurs représentants à ce synode-là. Pas seulement des Brésiliens qui vont être au synode-là.
C'est un fait. Alors, vous avez lu le document. Ce document-là est fait en trois parties. D'abord, une première partie sur le territoire. Alors, on parle beaucoup de l'Amazonie et des problèmes qu'il y a. La deuxième partie, c'est sur les populations d'Amazonie. Et rarement a-t-on vu un document aussi précis sur le nombre de communautés autochtones, sur les difficultés que les hommes, les femmes là-bas rencontrent. Et la troisième partie, c'est la question de l'Église en Amazonie. Et c'est là-dessus que je voudrais d'abord vous parler, Mireille. Un des éléments à l'intérieur du synode, c'est toute la question de la présence de l'Église à l'intérieur de communautés où elle est très peu présente d'une certaine manière par les prêtres. Mario vient de l'expliquer. Et je vais vous lire le numéro 129 à l'intérieur de ce document-là. Tout en affirmant que le célibat est un don pour l'Église, on se pose la question de savoir si, pour les zones les plus reculées de la région, il ne serait pas possible de procéder à l'ordination sacerdotale de personnes aînées, préférablement autochtones, respectées et acceptées dans leur communauté, même si elles ont une famille constituée et stable, dans le but de garantir la possibilité d'offrir les sacrements qui accompagnent et soutiennent la vie chrétienne. Je vous parle là, ici, non pas d'un pamphlet là, de gens qui revendiquent des choses, mais on parle d'un document officiel du Vatican qui parle de la question de procéder à l'ordination sacerdotale de personnes aînées qui sont même des pères ou des mères de famille. Là. C'est quand même important quand on entend ça.
Oui, je pense que c'est une avancée, simplement que ça soit mis à l'agenda, à l'ordre du jour, dans le document. J'ai bien hâte de voir comment ça va être discuté.
Oui, c'est ça. Et ça va être voté, bien sûr.
C'est ça, durant le synode. Et là, justement, sur le vote, il y a un mouvement qui émane davantage des pays occidentaux, mais il y a un mouvement présentement qui s'organise, qui demande à ce que les femmes soient représentées durant le synode, surtout au niveau, justement, des votes. Bon, on sait que les évêques sont des hommes, mais comment est-ce qu'on peut intégrer à ce moment-là des femmes par des religieuses, par exemple, ou des femmes laïques impliquées en Église pour s'assurer que les femmes soient représentées lorsqu'il y a des votes.
Oui. Mario Barre, c'est quand même une avancée d'avoir été jusque-là, alors que très souvent, on dit que toute la question de l'ordination sacerdotale d'hommes mariés, par exemple, c'est réglé, ça n'arrivera pas. Même chose pour les femmes.
Oui.
Voilà. Alors que là, on a ça directement dans un document quand même officiel.
Oui, c'est la position officielle de l'Église. Donc, le débat est fermé. Et ça, même le pape François l'a réitéré. Cependant, il a laissé aller ce point, donc ce qu'on appelle en latin les viri probati, là, les anciens, dans le fond.
Oui.
Qui ont fait leurs preuves et qui sont leaders, qui sont chefs de dans leur communauté chrétienne, qui sont considérés comme des inspirations. Alors oui, vous avez raison, c'est tout à fait nouveau, c'est une façon de voir les choses qu'il faudra observer, je crois, parce que c'est aussi toute la question du peuple de Dieu. Est-ce que le peuple de Dieu a réellement voix au chapitre quand il s'agit de transformation profonde dans sa propre Église? On le voit dans certaines Églises protestantes, c'est plus présent. Dans l'Église catholique, c'est peut-être moins évident, mais reste que sur le terrain, on voit beaucoup de communautés chrétiennes qui, sans nécessairement aller jusqu'à nommer des viri probati, vont avoir des chefs dans leur propre communauté chrétienne qui sont des inspirations et qui vont faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. D'où l'idée, d'ailleurs, pour le pape François, encore une fois, d'étudier le diaconat féminin.
Ben oui.
Alors ça, c'est... Donc, je pense que le pape François, en tout cas, ne va pas du tout à l'encontre de ce qu'il a dit jusqu'à présent, bien sûr, et ça, je vais laisser mon amie Louise-Édith en parler. Il y a beaucoup de critiques face
à ça.
Oui,
voilà, ça ne fait pas l'unanimité, en tout cas, là, d'avoir
non, pas
un
du
article
tout.
Semblable.
Les mêmes personnes qui, finalement, mènent une fronde constante contre tout ce que sort des politiques prônées par le pape François, ce sont les mêmes là, qui se manifestent sur la question du synode en Amazonie. Le cardinal Müller, le cardinal Brandmüller et l'évêque au Kazakhstan, Schneider.
Oui.
Bon, ce sont des porte-paroles habituelles contre tout ce qui émane du pape François. Alors là, on parle de panthéisme, qu'on est dans une... On parle d'adoration de la nature. Et également, on dit qu'il s'agit de la part du synode d'une ingérence agressive dans les affaires purement temporelles de l'État et de la société du Brésil. Et qu'on valorise les pratiques de guérison et les récits mythologiques des indigènes, ce qu'on ne devrait pas faire. Et on continue, c'est un rejet anti-rationnel de la culture occidentale, etc. Donc, évidemment, sur la question du numéro 129, la possibilité d'ordonner des personnes, soit comme diaconesses ou comme prêtres, des personnes mariées, eh bien, Mgr Schneider dit que le pape a le devoir strict que lui a conféré Dieu de préserver l'héritage apostolique du célibat sacerdotal et de transmettre cet héritage à son successeur et à la génération suivante. On parle aussi que le contenu de tout ce document-là est gnostique et naturaliste. Donc, c'est un rejet total et on prétend que on fait passer... c'est un grave danger pour l'Église d'avoir adopté un pareil instrument de travail et de discuter sur cette base-là.
Alors, je vous rappelle que le synode des évêques sur l'Amazonie se tiendra du 6 au 27 octobre 2019 à Rome. Je vous invite à lire l'Instrumentum Laboris. L'adresse est synodoamazonico.va. Sinon, écrivez seulement « Document de travail sur le synode de l'Amazonie ». Il faut absolument lire ce document-là. On est rendu au moment de l'émission où on demande à chacun de nos invités, nos chroniqueurs, de nous parler d'un événement, d'une revue à lire, tout ça. On a peu de temps. Mario Barre, très rapidement.
Ce vendredi 27 septembre, j'invite les gens à se rendre au cinéma Beaubien. Les Moniales, oui. Julie et Sœur Diane, ainsi que Louis Sigouin seront présentes pour la première du film Amoureuse, documentaire sur les Moniales de Berthierville. Magnifique, j'ai eu la chance de le voir. Allez-y.
Eh bien, Louise-Édith Tétrault.
Oui, ben, deux événements très importants qui se sont produits hier. Le début d'une procédure d'impeachment envers le président des États-Unis, destitution, oui, du président américain. Alors, c'est une histoire qui va à suivre. Et en Grande-Bretagne, la Cour suprême a donné tort complètement à Boris Johnson pour avoir suspendu les travaux du Parlement pendant plusieurs semaines. Donc, le Parlement va revenir dès aujourd'hui, va reprendre ses travaux.
Mireille Dastou?
Oui, demain, jeudi, il y a un panel à l'IRCM autour du dialogue dans les systèmes de santé avec trois ou quatre professeurs qui sont impliqués en santé. Je trouve que c'est un bel exemple. Il y a certaines choses qui se font dans les systèmes de santé où on met les décideurs publics en dialogue avec des patients. Alors, ça peut peut-être inspirer d'autres pans de la société.
Alors, merci pour ces suggestions. Alors, c'est déjà tout pour l'émission Foi et Turbulence. Je vous rappelle qu'elle est produite par l'Institut pastoral des Dominicains avec le soutien financier de la Fondation canadienne de la vidéo religieuse et de la Fondation Adieu va. Notre prochaine table ronde sur l'actualité aura lieu dans deux semaines, soit le mercredi 9 octobre. On vous y donne rendez-vous. La semaine prochaine, Foi et Turbulence propose une grande entrevue avec Sœur Catherine Aubin, auteure de « Sept maladies spirituelles, entrée dans le dynamisme des mouvements intérieurs ». Merci à nos invités. Merci d'Astou. Louise-Édith Tétrault et Mario Barre, merci à Mathieu Lavigne, coordonnateur de cette émission, et à Daniel Fortin à la régie. À l'animation, François Gloutenet de l'agence de presse Présence. Merci d'être à l'écoute de Foi et Turbulence.